Allô, allô, ici Ciné Herri.
Le metteur en scène français Abel Gance réalise en 1919 un plaidoyer pacifiste intitulé « J'accuse ». Puis, en 1938, il le reprend dans une seconde version, sonore cette fois-ci, et dans laquelle il incorpore des scènes du premier opus. C'est cette deuxième réalisation, cette fresque tragique des temps modernes, comme il était précisé en avant-propos, dont nous allons rendre compte ici. Abel Gance en a signé le scénario, les dialogues et la mise en scène, parfois grandiloquente et emphatique, toujours lyrique et hyperbolique. Adoptant le titre du célèbre article d'Émile Zola prenant la défense du capitaine Dreyfus, j'accuse, dénonce non seulement la Grande Guerre, mais toutes les guerres, et annonce explicitement la Deuxième Guerre mondiale. L'action est centrée sur la vie et la mort d'un ancien poilu, devenu pacifiste, Jean Diaz, interprété par le comédien Victor Francen, qui avait déjà tourné en 1931 pour Abel Gance, La fin du monde. Après la Grande Guerre, Jean Diaz devient fou. En proie à des visions macabres, il ne cesse de dénoncer les horreurs qu'il a vécues et de prévenir ses proches contre le prochain conflit qui se prépare selon lui. Les premières scènes montrent l'enfer des tranchées où les hommes doivent subir le fracas incessant du canon, la boue et la mitraille, le chemin des dames où meurent en mai-juillet 1918 de très nombreux soldats. Le 10 novembre 1918, dernier jour de la guerre, l'état-major français décide qu'une patrouille de 12 hommes doit aller en reconnaissance près des lignes ennemies. Leur supérieur estime que cette opération est tout à fait absurde et inutile, et qu'elle va nécessairement vouer ces hommes à une mort certaine. Un de ses amis, rescapé miraculeusement d'une mission précédente, le lui confirme. Il n'en reviendra pas un seul de ces patrouilleurs. Partageant la même approche, l'officier convaincu par cette analyse ne se résout pourtant pas à désobéir à cet ordre aberrant. Les hommes désignés ont, quant à eux, parfaitement conscience qu'ils vont mourir et s'y préparent. L'un écrit une lettre, l'autre charge un camarade de transmettre un message à sa famille après sa mort. Tous se savent perdus. Chacun évoque alors ce qui lui a paru le plus insupportable durant ces 4 années de guerre. L'attente pour l'un, le froid pour un autre, la vermine pour un troisième ou encore l'état de saleté dans lequel ils ont vécu avant de partir finalement vers la mort pour d'autres. La guerre terminée et l'armistice conclu, on joue la Marseillaise, tandis qu'un long plan nous donne à voir la cérémonie de l'Arc de Triomphe destinée à honorer le soldat inconnu. Mais Abel Gance montre dans le même temps, à l'écran, des milliers et des milliers de cadavres qui défilent en gros plan, bientôt remplacés par des centaines de milliers de croix, de tombes militaires multipliées à perte de vue. Le metteur en scène annule ainsi toute sacralisation et toute glorification des morts qui ne sont présentés comme des héros par l'État que pour mieux justifier la guerre, ce massacre de masse. Après l'armistice, l'ancien poilu Jean Diaz, qui n'a pour ambition que de mettre fin aux guerres et de propager une vision pacifiste, déclare « Pour arrêter la guerre, j'ai toute la force de tous les morts en moi. Et le meurtre de millions d'innocents ne se reproduira plus. Tant il est persuadé qu'il suffira de faire connaître l'enfer qu'ils ont vécu pour dissuader quiconque de s'engager à nouveau dans une logique belliciste. Cependant, il devient progressivement fou lorsqu'il estime qu'une nouvelle guerre approche. En fait, Abel Gance semble nous dire qu'il a perdu la raison à force d'être lucide. En effet, il s'insurge et interpelle son entourage qui ne veut pas voir le retour de la guerre, qui ne veut pas comprendre et s'enferme dans une attitude de déni. Vous avez donc tous des yeux pour ne pas voir? La guerre est là, la guerre approche, les horizons politiques se bouchent, hurle Diaz. Jean Diaz se rend à Douaumont pour s'incliner devant la stèle de ses camarades morts le 10 novembre 1918 et déclare désabusé. Votre sacrifice n'aura servi à rien. Les vivants veulent de nouveau faire la guerre. Marins de toutes les mers, tués par la guerre, je vous appelle. Aviateurs de tous les ciels, tués par la guerre, je vous appelle. Fantassins, artilleurs, tués par la guerre, je vous appelle. Cavaliers de tous les pays, tués par la guerre, je vous appelle. Mes 12 millions d'amis tués par la guerre, je vous appelle. Vous sur qui les hommes, sourds et aveugles, marchent depuis 20 ans. Levez-vous tous, les vivants veulent recommencer la guerre. Levez-vous, je vous appelle, levez-vous tous. Il exhorte ainsi les morts en français, en anglais, en allemand, sur une musique cauchemardesque, dantesque, dans une atmosphère visuelle d'apocalypse. Cette œuvre adopte alors clairement le répertoire du fantastique dans une succession de séquences cinématographiquement très audacieuses. Sur une musique effrayante et obsédante, les morts se lèvent de leur tombe, quittent les cimetières et s'engagent dans un défilé fantomatique, une procession, une marche carnavalesque qui n'est pas sans évoquer certaines toiles de James Ensor, comme l'entrée du Christ à Bruxelles ou bien encore la mort et les masques que le peintre réalisa respectivement en 1888 et 1897. Les vivants prennent peur. Tous cèdent à la panique dans une ambiance de fin du monde et de chaos total. Un paysan terrorisé s'exclame. Ils viennent de partout, des milliers, des centaines de milliers, des Allemands, des Italiens, des Russes, de tous les pays vivants. Ils vont dans toutes les directions, on dirait qu'ils cherchent leur pays, leur village, leur ville. C'est à devenir fou. Des gueules cassées se succèdent à l'écran en gros plan, tandis que l'on entend la voix de Jean Diaz, comminatoire, qui tonne. Regardez-les bien, que l'envie de vous battre s'arrache à jamais de vos cervelles. Remplissez vos yeux de ces horreurs. Enfin et paradoxalement, l'histoire semble s'achever sur une note d'espoir. Les dernières séquences sont en effet consacrées aux États généraux universels qui décrètent à l'unanimité le désarmement immédiat et l'abolition de la guerre. La guerre est morte, proclame-t-on, mais il n'était pas permis d'y croire à l'époque. Abel Gance lui-même n'y croyait pas. Rappelons en effet qu'il avait tenu à inscrire en prologue de sa propre main le message suivant. Je dédie ce film aux morts de la guerre de demain qui vont le regarder sans doute avec scepticisme, sans y reconnaître leur image. Peut-on imaginer une déclaration plus désenchantée, mais aussi plus lucide? Cette œuvre, réalisée en 1938 et projetée en France quelques mois avant la Deuxième Guerre mondiale, a connu immédiatement un très grand succès. Dès 1939, ce film a été honoré de la médaille d'or de la SDN et il a reçu les 4 étoiles la plus haute récompense aux États-Unis en 1940. Il prend naturellement aujourd'hui une singulière valeur de prémonition.